Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et collaboratrice et co-animatrice et historienne, Evelyne Ferron.
Bonjour, ça me fait beaucoup de chapeaux aujourd'hui.
Evelyne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et ça fait longtemps que je t'achale pour parler de ça.
Oui, on est dans la variété. J'espère que vous êtes contents depuis le début de cette deuxième saison. Je crois qu'on étire l'élastique dans à peu près tous les coins historiques et ce sera encore le cas aujourd'hui. Oui, depuis tellement longtemps que tu dis « Il me semble Staline, ce serait tellement un bon personnage. » Et voilà. Pour moi, Staline, c'est la personne la plus effrayante qui existe sur Terre avec Mao Tse-dong. Donc, je me demande pourquoi tu as cette espèce d'éclat dans les yeux quand tu mentionnes cet étrange personnage de l'histoire.
Staline, en partant, je trouve qu'il est plus grand que nature. Je trouve que, comme beaucoup de personnages qu'on a abordés, c'est dur de délimiter le vrai du faux, quoique dans son cas, beaucoup d'horreurs sont vraies, là. Mais je trouve que c'est ça. Tu sais, il est comme plus gros que nature. C'est comme une grosse ombre qui plane sur la Russie puis qui a vraiment imposé un régime de terreur, là.
Oui.
Puis, tu sais, on parle souvent de Hitler avec tout ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, le massacre des Juifs et tout. Mais Staline donne pas sa place, là. Je trouve qu'il est comme un peu méconnu au niveau des purges. Les purges staliniennes, c'est une époque que je trouve terrifiante, mais que je trouve fascinante aussi parce que tout le monde était suspect, tout le monde était un contre l'autre, tout le monde se regardait, tu pouvais être envoyé en Sibérie pour rien. Je trouve qu'il y a tellement d'horreurs qui ont été commises, puis ça me rentre pas dans la tête comment quelqu'un a pu monter jusque-là. Ça me rentre pas dans la tête comment, tu sais, en Russie, ils sont pas 8, là, ils sont des millions, là, des centaines de millions.
Surtout à cette époque-là, le territoire de l'URSS, c'était gigantesque, géographiquement. Parlant, là, quand on arrive dans les années 30, c'est le plus gros territoire unifié. Là.
Ils ont tout embarqué, puis pas tout de leur plein gré. On s'entend, il y a la terreur qui fait que tu suis le groupe, mais tu comprends toute cette notion de Russie puissante, de Russie unie, de purification, du communisme aussi.
Mais à sa mort, tu vois, en 53, Khrouchtchev a tout de suite voulu démanteler le côté terreur dont tu parles. T'sais, on va garder certains idéaux communistes, oui, mais ce côté terreur qu'on associe aux communistes, Khrouchtchev va essayer de casser ça un petit peu quand même.
C'est ça, essayez, là, mais...
Oui.
Le fait que, tu sais, Lénine a côtoyé Staline, puis que pendant cette petite cohabitation-là, ou cette petite amitié, ben il y a comme, j'ai l'impression, la balance.
Oui, mais c'est parce que t'oublies qu'il y a un troisième personnage là-dedans, que Staline va persécuté et va réussir à faire assassiner. Et c'est l'amant de Frida Kahlo, c'est Léon Trotsky.
Oui, en Amérique latine.
C'est une sainte trinité. Des débuts du bolchevisme et du Parti communiste de ce qui devient l'URSS. Oh oui!
C'est pour ça que je trouve que son histoire est incroyable et terrifiante, là, vraiment. La Russie me fascine, mais me fait peur en même temps, mais je trouve que son histoire est tellement riche. Alors, c'est pour ça que je voulais parler de Staline.
Eh bien, écoute, je suis là pour répondre à tes questions au mieux de mes connaissances. Je ne suis pas une spécialiste de l'histoire russe, mais c'est sûr que c'est quand même un volet, quand on enseigne au collégial, inévitable. Donc, j'ai quand même mes bonnes bases dans tout ça, ne t'en fais pas. Mais tu sais, je veux dire, il y a peut-être des petits détails très pointus pour lesquels je vais échapper des dates, ou bon, je vais être moins précise, là, parce qu'il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de choses dans tout ça. Staline, quand même, a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans, donc il va dominer, je dirais, la scène politique de sa mi-trentaine jusqu'à sa mort, ce qui est quand même une trentaine d'années assez spectaculaire, je dirais.
Mais oui, puis de toute façon, si t'échappes de quoi, on invite les gens à aller sur Google, là. C'est accessible, c'est gratuit, oui. Si vous voulez en savoir plus, allez-y, là. Venez pas nous écrire pour nous demander, oui, mais non, Google. Voilà. On est un podcast clé en main pour la suite. Allez faire vos recherches.
Oui, parce que dans les faits, le but, c'est de s'amuser. Je ne dois pas devenir un ordinateur, sinon je n'aurai plus de plaisir. Alors ça aussi, il faut me donner un petit
look. Et quoi de plus plaisant, Evelyne, que de parler de Staline ensemble?
Vas-y, avec tes questions. Je vais essayer de te suivre. Soyons peut-être un peu pédagogiques, j'ose pas espérer, parce que c'est très lourd et complexe. Mais je vais suivre tes questions. Mais ça se peut des fois que je fasse des petits retours dans le temps pour placer nos auditeurs, nos auditrices dans cette histoire qui dans laquelle il y a beaucoup de bouleversements et de choses qui se passent. Donc, allons-y avec tes questions sur Staline.
Commençons avec le commencement, là. Est-ce que tu peux nous dire quand est né Staline, puis où se situait la Russie politiquement, mettons, à cette époque-là?
Quand on parle de Joseph Staline, Staline, d'ailleurs, c'est un surnom qu'il va se donner dans la trentaine. C'est pas son nom de famille. Son nom de famille n'est pas prononçable. C'est genre Djurlevika. Il y a un nom très lourd. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas russe? Il est géorgien. Et donc, parle géorgien. Ne parle pas russe dans sa jeunesse. Donc, il est né en 1878 en Géorgie. D'une famille très, très pauvre. Son père est en fait un cordonnier et sa mère est d'une piété chrétienne orthodoxe assez exceptionnelle. Et en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que dès sa tendre enfance, ben, Staline, bon, a un père qui est alcoolique, typique de ces petits villages de Géorgie qui vivent dans une pauvreté extrême, coincé justement là, aux limites de l'empire des tsars, qui est l'empire russe, mais la Géorgie est quand même un territoire un peu à part avec sa langue aussi. Donc, il parle le géorgien et sa mère, ben son rêve, c'est qu'il soit prêtre et même évêque. Alors, c'est ce qu'il était supposé devenir. Mais c'est en même temps ce qui lui a offert une éducation. C'est que sa mère va réussir à le faire entrer dans un séminaire. Donc, il va avoir une éducation. Staline va pouvoir au séminaire apprendre le russe. Il va même apprendre des rudiments d'anglais, de grec. Il va maîtriser plusieurs langues, en fait, Staline. Et c'est ce qui va faire en sorte que quand arrivera la Deuxième Guerre mondiale, il va être capable de communiquer avec notre Mackenzie King ou avec d'autres personnages qui vont faire partie de l'alliance anti-Hitler. Il va quand même, mais c'est ça. Au départ, c'est le russe, le grec et les bases d'anglais qu'il va pouvoir commencer à apprendre du côté du séminaire où il va être. Et c'est sûr qu'il va être dans un milieu, les séminaires de villages comme ça ou de petites communautés. En fait, il était à Gori, qui est comme une ville de Géorgie. On s'entend qu'en dans les années, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, c'est quand même à la dure, là. Tu sais, je veux dire, c'est des écoles où on bat les étudiants quand ils ont un mauvais comportement. On est très, 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 très dur au niveau des mots qu'on utilise envers eux. Fait que, tu sais, il y a déjà, tu sais, dans les analystes, les grands spécialistes de Staline vont dire que ce traitement-là va souvent donner naissance à des personnages qui vont être très intransigeants par la suite, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ils ont appris à s'endurcir, à pas avoir d'émotions, à pas trop réagir pour s'en sortir dans ce genre de milieu qui est très, très difficile.
On n'est pas dans l'éducation bienveillante qu'on pratique en ce moment, là.
On est loin de « As-tu atteint tes compétences? » Est-ce que tu as appris ça par cœur? Non, mon maudit, je vais te donner un coup de règle ou autre, là. Tu sais, c'est ce genre d'univers dans lequel il va évoluer et ça va faire en sorte que quand il va être, bon, on va dire fin de l'adolescence et tout ça, même s'il est au séminaire, puis il monte quand même les échelons, là, tu sais, il est quand même intelligent. Joseph, celui qui devient Joseph Staline. Et c'est sûr que là, il va commencer à lire beaucoup. Alors, il va s'intéresser aux philosophes, il y a beaucoup de livres dans un séminaire et il a la chance de pouvoir s'éduquer et de lire énormément, que ce soit les philosophes des Lumières et tout ça. Il va s'intéresser beaucoup à toutes sortes d'écrits jusqu'à temps qu'il tombe sur le manifeste du Parti communiste qui avait été rédigé par Karl Marx et Frédéric Engels, en 1848, qui avait donné naissance plus tard au fameux Printemps des Peuples, où ça avait créé beaucoup de bouleversements où on contestait le capitalisme, on contestait l'industrialisation, mais surtout comment la masse, les ouvriers, ben, dans le fond, payaient le prix pour à peu près tout, sans avoir leur mot à dire politiquement. Ça vient le chercher, ça l'intéresse énormément, un peu à l'instar de d'autres qui vont utiliser le manifeste communiste. On voit Karl Marx comme une espèce de gourou du communisme, ce qui n'est pas une commande, le manifeste communiste. On s'entend que Karl Marx, après, va plutôt essayer, lui, d'intellectualiser qu'est-ce qui fait qu'on a une nouvelle classe sociale qui sont les prolétaires. Et c'est comme ça que, même s'il n'est pas publié au complet de son vivant, Le Capital va sortir, où il est le premier à donner un mot à ce système économique qu'on appelle encore aujourd'hui le capitalisme. Mais c'est sûr que quand on regarde ceux qui vont s'approprier les idées communistes à l'époque, on a besoin d'un héros, on a besoin d'aller chercher des mots-clés très importants, et Karl Marx les offre. Mais Karl Marx, même de son vivant, disait « Je ne sais pas c'est quoi le marxisme, je ne comprends pas c'est quoi le marxisme, c'est quand le monde utilisait ses idées. » Bon, c'est une petite parenthèse, mais elle est assez importante parce que on va aller chercher beaucoup le vocabulaire de Marx, et on va se l'approprier, mais on va l'utiliser à des usages que lui n'aurait probablement pas accès. Mais il tombe là-dedans, quand même assez fort. Et là, il s'intéresse au socialisme, il s'intéresse au fait que, bon, la masse devrait être protégée, le pouvoir devrait revenir à la masse, équité entre les gens, il devrait pas avoir de saut métier. Bon, on est un petit peu dans cet univers-là. Et il va d'ailleurs être chassé du séminaire, là, parce que là, on réalise qu'il va de plus en plus avoir des problèmes de comportement. Il va dire qu'il a manqué des examens aussi, parce qu'il va participer à des manifestations. Bon, on voit un peu là, l'espèce de trouble fait qui est en train de se mettre en place. À un moment donné, il va vouloir devenir un leader. Il va choisir un nom d'un espèce de personnage très obscur de la Géorgie, de la Russie, là, qui s'appelle Kobol. Tu sais, il s'est donné des surnoms. Il se crée un personnage, en fait. Il est en train de se monter un personnage. Et c'est dans ce contexte-là qu'à un moment donné, il va s'intéresser au mouvement bolchevique, qui lui aussi s'intéresse aux idées communistes et au marxisme, avec à sa tête un certain Vladimir Lénine.
Lénine! Tu t'en vas vers ma prochaine question, mais si Staline est né, tu sais, était ado à la fin du 19e siècle, ça veut dire qu'il a vécu la révolution russe qui a eu lieu en 1917.
Oui! Voilà. Il l'a vécu, il y a participé aussi, surtout en 1917. C'est sûr qu'il y avait déjà eu des le bolchevisme, c'est 1911, là, vraiment, où ça devient important, où on commence à contester de plus en plus le tsar en place, parce que la Russie, depuis très longtemps, en fait, est gérée par le tsarisme, donc qui est comme un mot russe dérivé de César. c'est un tsar qui est l'équivalent d'un empereur, et c'est un régime qui est autocratique. Ça veut dire que le tsar a tous les pouvoirs, et il est considéré comme étant un peu un monarque de droit divin, donc c'est Dieu qui le place là, qui lui donne son pouvoir, sauf que quand Staline va vraiment s'intéresser aux idées communistes, Nicolas II est un personnage un petit peu plus faible que ses prédécesseurs. Il a un fils, aussi le seul fils qu'il a, là on parle des Romanov, donc on est vraiment dans la famille des Romanov. Il a son héritier, le petit Tsarevitch, souffre en fait là, il souffre d'hémophilie.
C'est ça, j'allais dire hémorragie, mais c'est pas ça, hémophilie.
Bon, le petit Tsarevitch souffre d'hémophilie,
oui, et là, c'est très grave. Oui, puis là, on est vraiment dans toutes les légendes, là, Rasputin, la princesse Anastasia, c'est on tout cet univers. On fera
une chronique à part par rapport à Anastasia, Rasputin, c'est très lourd aussi.
Oui, mais c'est des contemporains, là.
Oui, c'est là qu'on est. Et Nicolas II, ben, peut-être ne voit pas venir tant que ça la montée du communisme. Il faut dire aussi que, bon, il a quand même, lui, de par sa famille, mais aussi par son épouse, il est lié à la reine Victoria, il est lié à toutes les grandes têtes couronnées d'Europe, avec lesquelles il garde quand même un bon contact. C'est sûr que, bon, arrive la révolution industrielle en Russie. Il veut industrialiser la Russie, mais c'est très difficile, c'est très complexe. Et arrive la Première Guerre mondiale, qui va faire très mal, en fait, à la Russie, et qui va donner, justement, du poids à ce mouvement bolchevique communiste qui est en train d'émerger, qui est mené par celui qu'on voit comme un journaliste au départ, parce qu'il écrit dans le journal, on va dire socialiste de l'époque, la Pravda. C'est Vladimir Lénine, qui est un peu à la tête de tout ça, mais tu sais, qui est toujours avec sa casquette et qui fait des discours bien enflammés à Adolf Hitler, où le charisme du personnage l'emporte peut-être sur ses capacités, je dirais, politiques à l'époque pour mettre en place un vrai régime de type communiste. Mais donc, Staline arrive à ce moment-là.
Mais je fais juste une parenthèse, la Pravda, ça existe encore, si je me trompe pas.
En théorie, oui, mais c'est pas le... On n'est plus dans la même lignée exactement.
Non, dans la même ligne éditoriale.
Oui, mais en fait, il y a eu plusieurs Pravda. Là. Je veux dire, c'est un nom qui a été récupéré pour d'autres journaux, des publications en ligne et tout ça. Donc, il ne faut pas trop se mélanger par rapport à tout ça. Le journal de l'époque, on n'est plus vraiment là-dedans.
C'est plus ça.
Non, c'était vraiment un journal, j'appelle, de propagande communiste, là, surtout à l'époque de Vladimir Lénine. Donc, quand le bolchevisme monte, ben, c'est comme ça que graduellement, Staline se joint au mouvement. Et quand, en 1917, ben, là, on déclenche la révolution russe et que Nicolas II est capturé et donc abdique d'une certaine façon aussi, parce qu'il reconnaît que là, il l'a échappé. Il y a eu plein d'événements qui ont mené à tout ça, notamment qu'on ait tiré lors d'un dimanche rouge sur la foule qui manifestait pacifiquement, parce que ce qu'on demandait, en fait, c'était d'avoir un parlement qui appuyait le tsar. C'est ça que la population demandait, en fait, c'est que la population ait un droit d'expression à travers des députés élus qui allaient donc travailler de pair avec le tsar, mais Nicolas II, de par son entourage, plein de choses, avait peur de faillir, un peu comme Louis XVI, en fait, c'est un peu la même chose que la Révolution française, c'est qu'ils ont peur de faillir le système dans lequel ils sont nés. en osant ouvrir cette porte-là. Alors, c'est un petit peu là, une des raisons parmi tant d'autres qui explique cette fin de Nicolas II et des Romanov. Lénine, d'ailleurs, qui va les envoyer très loin en Sibérie dans une maison où ils seront un jour fusillés. Là, ça va sortir plus tard. Les gens ne le savent pas à l'époque. Mais Lénine est donc quelqu'un qui veut établir un système à la dure. Donc, en 1917, Staline est aux commandes. Il est avec Lénine. Il fait partie, en fait, là, des hautes têtes, en fait, de ce mouvement-là. C'est un homme éduqué. C'est un homme, justement, qui parle plusieurs langues. C'est très pratique aussi à l'époque. Mais il est motivé, il est passionné. Lénine, c'est celui qui travaille pour mettre en place ce régime communiste-là. Ça passe pas bien, surtout quand on commence à comprendre ce que c'est exactement. Il y a des gens qui ont été pour la révolution, mais qui espéraient plus une forme de démocratie, il faut dire, que ce qui s'en vient. Et les gens de la haute noblesse et tout ça vont très, très mal réagir à l'arrivée du communisme, où en fait, tout appartient à tout le monde d'une certaine façon, si je résume de manière extrême, mais c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Peu importe le métier, ça va être le même salaire, les bâtiments publics sont à tout le monde. Bon, on y va avec... Des réformes qui sont très rapides et très difficiles à suivre pour beaucoup de gens, mais c'est dans ce contexte-là que Staline participe aussi, et il a ce nom-là, là. Il s'est déjà donné ce nom de Staline, l'homme d'acier, ça y est, parce qu'il veut montrer qu'il est un homme fort et qu'il va être capable de tenir cette révolution-là au bout de ses bras, mais on sent que déjà, il voit Lénine comme étant un pragmatique qui doit trouver des façons de mettre ses idées en place, mais Staline le trouve peut-être un peu mou dans sa façon de négocier. On le sent là, que Staline, lui, veut la méthode un petit peu plus dure. Mais Lénine n'a pas été tendre non plus. Là. Il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup de gens qui ont été justement déjà forcés à travailler pour industrialiser la Russie. Ça commence sous Lénine, là, tout ça. Mais c'est juste que Staline va pousser ça à des niveaux qui sont extrêmes. Donc, Lénine est quand même le départ. Et Staline bon, va devenir à être le secrétaire en fait de ce parti communiste ou ce parti, on pourrait dire République socialiste soviétique, là, mais c'est du communisme essentiellement. Là, oui.
Trotsky se place où dans tout ça?
Trotsky, c'est un peu le Che Guevara de Fidel Castro. Il est le Che Guevara de Lénine, c'est l'idéaliste. Alors, Trotsky, c'est celui qui... Et l'intellectuel, Léon Trotsky, qui connaît les écrits de Marx, d'Engels et de plein de monde, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même écrit sur ces valeurs de revenir à quelque chose de plus communautaire et surtout anticapitaliste, on pourrait dire impérialiste, mais ici, bon, ils vont faire vraiment l'opposé avec l'URSS. Mais Léon Trotsky est l'idéaliste, mais surtout l'intellectuel qui met en place comment on peut organiser un système politique basé sur ces idéaux-là. Et c'est là où ça accroche des fois, parce que lui, c'est un idéaliste. Lénine est le côté pratique, on met ça en place. Puis Staline, ça va être non seulement on met ça en place, mais on va y aller à la dure. Alors, c'est sûr que les trois ensemble, ça donne un trio qui est assez particulier. Mais tu sais, dans les affiches de propagande d'après la Révolution, on monte toujours des espèces d'affiches où tu as Karl Marx, Trotsky, Lénine, et à la fin, quand Staline va au pouvoir, il va se mettre au bout de cette espèce de lignée en disant « Je suis la continuité de toutes ces superbes idées. » Oh, que oui! Karl Marx t'aurait vu aller, il se serait enterré lui-même!
Il aurait crié « C'est pas ça que je voulais dire!
» Sûrement pas! Ah non, écoute, Staline, ça y va quand même assez loin. Et c'est comme ça que Lénine va tomber malade. Hein? Lénine, dans les dernières années de sa vie, d'ailleurs, on le voit, il est en fauteuil roulant et tout ça, décède en 1924. Et Staline a réussi... dans les dernières années, de 1921 à 1924 surtout, a essayé de se faire le plus d'alliances possible sans prendre le pouvoir. Il n'a jamais essayé de déloger Lénine, mais par en dessous, et ses communications, ses alliances, c'était une façon de dire quand Lénine va passer l'arme à gauche, la personne qui serait la plus apte à devenir, en fait, à être à la tête de notre parti et à gérer la Russie, c'est moi. Sauf qu'il y a des rivaux. Trotsky est le plus connu, mais il y a d'autres rivaux aussi qui seraient intéressés à avoir la succession de Lénine. Donc, lui, il voyait ça aller, puis il a manœuvré dans les coulisses jusqu'à la mort de Lénine pour que quand Lénine meurt, on se tourne vers Staline et on dise, pour l'instant, en tout cas, peux-tu diriger la Russie le temps qu'on règle tous nos problèmes?
Lénine est mort naturellement.
Oui, il y avait une maladie, en fait. Mais Lénine est tellement apprécié que c'est pas pour rien là, qu'il est momifié, placé sur la place rouge.
Vous pouvez encore aller le voir, si vous voulez.
Il est pas là au printemps. Donc, ça, des fois, l'hiver, printemps, il descend quelques mois dans une espèce de saumure inconnue avant de le remonter. Parce qu'il faut que la momie soit préservée. C'est assez particulier. Il est vraiment figé. Là,
mais
c'est...
pourquoi il l'enterre pas? Pourquoi il est encore là?
Ça a toujours été un débat, mais il est tellement associé à un changement pour l'histoire russe qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas prêts à laisser aller ce symbole-là. D'avoir mis fin justement à l'oppression du tsarisme pour donner naissance à un idéal qui est différent de l'Occident aussi. Un peu, je dirais, un côté anti-occidental qui vient avec l'exposition du corps de Lénine dans tout ça. C'est très particulier, mais ça attire les touristes aussi. Faut que tu... C'est ça l'affaire. Les gens veulent voir ça. Là. Tu sais, t'as la chance de regarder un membre important du début du 20e siècle. T'sais, un homme qui était tellement bouleversé de choses. Hey, tu sais, c'est sûr que tu veux voir ça en même temps. Donc, c'est un peu particulier comme histoire. Mais donc, Staline, non seulement arrive au pouvoir, mais là, il se dit, OK, Trotsky est celui que les gens voudraient voir arriver. Trotsky qui est beaucoup plus doux. Trotsky qui est idéaliste, donc volontairement, il le pourchasse et veut l'assassiner. C'est ce qui fait que Trotsky part en exil. Hein. Il va aller se réfugier en Norvège, et là, Staline va dire aux Norvégiens, on vous achète une quantité assez appréciable de poissons pour nos territoires. Si vous gardez Trotsky chez vous, on arrête d'acheter du poisson. Et c'est comme ça que Trotsky va réussir grâce à Frida Kahlo et leur entourage à arriver du côté du Mexique. Le Mexique qui aussi prône les idées communistes, la révolution, etc. à ce moment-là. Où il sera assassiné d'un coup de pioche de derrière la tête, malheureusement. Après avoir baisé, qui fut Frida Kahlo un petit peu quand même.
Ben, regarde!
Il s'est amusé à la fin, c'est ça! C'est comme ça que Staline, on peut dire, vraiment, à la fin des années 20, est l'homme fort. Donc, c'est comme ça qu'aussi qu'il va se donner un titre. On est vraiment dans toutes les bases de ce qui va devenir une dictature. C'est que là, il va avoir un culte de la personnalité pour que les gens comprennent pourquoi il est là, pourquoi il va rester au pouvoir. On écrit des livres sur lui, on modifie des manuels scolaires. Il y a tout un culte de la personnalité au niveau de comment on le présente. On le présente comme le gentil papa. Staline, il a l'air d'un gentil papa. C'est ça l'affaire. Il a la grosse moustache, puis il rigole.
Mais c'est lui qui se fait appeler le petit père des
Le vote, non? Exactement. Petit père ou petit frère des peuples, exactement. Où on voit beaucoup d'images de propagande, où il est habillé en blanc, puis les gens lui amènent des fleurs et tout ça, puis il touche les gens comme « je suis là pour vous protéger, je suis votre protecteur », finalement, dans un monde qui est en bouleversement un peu partout. L'entre-deux-guerres, c'est quand même particulier en Europe. Il n'y a pas un pays qui n'est pas dans une période, on dirait, de crise. Il va y avoir le crash boursier, mais aussi, bon, les années folles d'un côté. Il se passe tellement de choses dans les années 20, là. Et Staline lui dit, bon, moi je la vois venir, la Deuxième Guerre mondiale, je suis pas idiot. Non seulement je vais étendre mon territoire comme il faut, mais il faut qu'on soit prêt du point de vue économique et industriel. Donc, c'est une industrialisation forcée. Hein. Donc, les premières étapes de Staline, là, ça, il se fait un plan de 5 ans, un plan quinquennal. Là, il va tout faire pour y arriver, ce qui fait que beaucoup de gens qui sont juste morts de famine ou d'épuisement parce qu'il fallait absolument que la rentabilité soit atteinte à chaque jour un peu partout. Donc, c'est vraiment l'industrialisation. On va exploiter le pétrole, on va faire beaucoup de choses en fait pour que la Russie soit une puissance économique, mais aussi qu'elle soit prête militairement à tout ce qui pourrait survenir là, dans les prochaines années. Tout le monde attend la Deuxième Guerre mondiale parce que tout le monde est insatisfait des divisions territoriales après la fin de la Première. C'est un peu ça l'idée. C'est ça qui fait qu'Hitler valorise beaucoup l'idée de refaire un empire allemand là, parce que l'Allemagne a tellement perdu de territoire qu'elle s'est rendue une crotte là, tu sais, sur l'échiquier politique et géopolitique de l'Europe. Staline va dans son plan, il y a l'industrialisation, mais il y a aussi un peu comme Mao Tse-Dong plus tard avec son grand bond en avant, c'est l'idée que là, il faut changer la façon de pratiquer l'agriculture, c'est pas assez productif, et c'est comme ça que là, ils vont en fait nationaliser les terres agricoles, les terres vont appartenir à l'État, et les paysans vont travailler un peu pour l'État, et ça ne marche pas.
Mais c'est là qu'ils vont créer ce qu'ils appellent les kolkhozes, c'est ça?
Oui, qui sont ces espèces de regroupements collectifs, de travail des terres, puis ça marche pas. Écoute, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont morts de famine parce qu'on n'a pas compris comment fonctionnait l'agriculture. On a essayé de transformer des paysans en industriels de l'alimentation. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné en Chine non plus, où on a même des exemples de cannibalisme tellement les paysans étaient rendus assez loin dans ce genre de situation. Mais Staline, pour lui...
C'est des dommages collatéraux.
Exactement, là. Pour un plan qui est beaucoup plus vaste. Donc, pour lui, ça ne dérange pas en fait qu'il y ait autant de monde qui meurt de famine s'il peut atteindre ses objectifs.
C'est qu'ils sont comme allés trop vite sans outiller les gens nécessairement. Là.
Sans les outiller, sans comprendre que le territoire est vaste, qu'il y a des tu sais, je veux dire, sans comprendre le territoire aussi, ses demandes, tu sais, on peut pas faire pousser certaines choses à certains endroits, ou du moins la productivité sera pas la même parce que, bon, il y a des questions climatiques, il y a des questions de type de sol, il y a des questions d'eau, d'arrosage, tu sais, il y a tellement de facteurs qui entrent dans tout ça, puis des paysans qui sont habitués de cultiver le pain de terre pour eux, pour survenir à leurs besoins, versus entrer dans nourrir une collectivité, nourrir des villes, tu sais, c'est beaucoup plus lourd. Là.
Et parallèlement à tout ça, t'allais dire qu'il se passe d'autres choses.
Voilà, il se passe d'autres choses. Les années 30. Années 30 et Staline. Staline qui va faire frémir l'Angleterre, la France, les États-Unis, qui vont comme faire... Ouh, mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaste territoire qui s'appelle maintenant l'URSS, donc l'Union des républiques soviétiques socialistes? Il fait un peu peur, parce que là, il y a des, beaucoup de témoignages de morts, on parle de millions de morts, parce que Staline, en même temps, est quelqu'un qui, comme beaucoup de dictateurs d'ailleurs, parce qu'il est en train de prendre le pouvoir par une certaine force, quand quelqu'un le contredit, c'était dès le départ, mais ça arrivait sous Lénine aussi, ces gens-là avaient tendance à disparaître. On les envoyait, oui, travailler en Sibérie, ou des fois, ils faisaient juste mourir. C'est la stratégie de la Gestapo aussi, là. Le fameux toc-toc-toc à la porte, là, faisait terriblement peur. Et donc, un régime de peur qui s'est comme instauré, mais graduellement. Staline, il est fin, il a l'air gentil avec tout le monde, mais quand il sourit, tu sais jamais, il faut pas que tu parles avant lui. Il y a comme des espèces de code non dit de comment se comporter pour éviter d'être comme ciblé puis de peut-être disparaître à tout jamais. Puis il faut dire d'ailleurs que Staline, à ce moment-là, avec son culte de personnalité, il se fait maquiller beaucoup. Aujourd'hui, on est en train de montrer beaucoup de photographies où il est au naturel. Il a le visage complètement troué, hein, Staline, parce qu'il a eu la variole quand il était enfant. Ça a laissé des ravages sur sa peau, mais sur les affiches, sur les photos officielles, il est maquillé, donc il a l'air vraiment bien, mais les images d'archives, surtout quand c'est colorisé, là, tu vois les trous là, dans sa peau, c'est assez hallucinant. Donc, de près, il devait être quand même assez un peu effrayant, hein, je dirais, à regarder. Là. Oui, c'est pas un trou de varicelle. Là, tu sais, je veux dire, il y a vraiment la...
Grêlé, là.
Oh oui, solidement. Un côté plus que l'autre, d'ailleurs, quand tu regardes certaines images de très près, là. Là, il va commencer à devenir paranoïaque. C'est souvent ce qui arrive à des gens qui dirigent des aussi gros territoires puis qui l'ont fait en poignardant les autres. Ben, ils vont avoir peur de subir le même sort. Donc, Staline devient vraiment nerveux et c'est ce qu'on appelle les grandes purges. Les grandes purges, c'est qu'au sein même du Parti communiste, il va faire éliminer ou envoyer dans des camps de travail beaucoup de monde qui pourrait vouloir le renverser. Mais il faut dire qu'au-delà du communisme, c'est que des populations, l'URSS, c'est plusieurs ethnies différentes avec des langues différentes, des cultures différentes. Il y a des gens qui ne veulent pas embarquer dans cette espèce de gros système-là, ne le comprennent pas non plus. Il a de plus en plus peur, en fait, d'être détrôné. Il y a des gens qui ne veulent plus rien savoir du communisme, mais on s'entend que l'Europe occidentale et les États-Unis promouvoient beaucoup le fait que c'est pas sain ce qui est en train de se passer en Russie. Il est paranoïaque, donc ce sont les grandes purges. Les grandes purges, on peut... Les chiffres sont impossibles à établir parce qu'on n'a pas tous les charniers, mais je veux dire, dans les théories les plus extrêmes, on va jusqu'à 20 millions de personnes qui vont mourir sous Staline, là, en une trentaine d'années, là, c'est énorme. Mais il y a des images d'archives, surtout que là, maintenant, le KGB et tout ça de plus en plus rend accessible des archives.
Commence à ouvrir.
Effectivement, de ces époques-là, on commence à réaliser que wow, le monde mentait peut-être pas tant que ça. Donc, ce sont les fameuses goulags. Une goulag, c'est un camp de travail. Hitler n'a rien inventé. Il va juste aller plus loin avec des chambres à gaz, mais essentiellement, il n'est pas l'inventeur du camp de travail, vraiment pas. Mais Staline est vraiment celui qui va les rendre...
mortels.
Mortellement efficaces.
Ouais, c'est ça, mortellement efficaces, j'aime ça.
Des camps de travail, oui, en Sibérie, mais un peu partout, où les gens qui, justement, font partie des purges ou sont ciblés comme étant peut-être plus ou moins vendus à Staline, à ses idées, vont être envoyés pour travailler. Souvent, on leur fait faire plein de travaux pour l'industrialisation, que ce soit extraire du charbon, des choses comme ça, mais sur des horaires épouvantables, ils sont à peine nourris, ils ont à peine d'eau, donc souvent ils meurent d'épuisement très très rapidement, donc c'est une punition en fait, tu vas travailler jusqu'à ta mort, et la bénédiction c'est d'habitude c'est d'être fusillé parce qu'au moins t'as pas à te rendre jusque là, mais des fois il va aller vers des grandes purges parce qu'il déteste certaines ethnies, c'est le cas des Roms à Michel, les fameux Roms qui sont des gitans qui se promènent un peu partout, pensez à Peaky Blinders là. Mais ces gitans qui ont un mode de vie encore très nomade, c'est le genre de population qui dérange Staline parce qu'ils sont difficiles justement à contrôler de par leur nomadisme. C'est le genre de population que quand on met la main dessus, on va leur faire creuser un fossé avec à la pointe d'un fusil, on les aligne, on les tire, puis on ferme le fossé après. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Et on va envoyer des gens aussi dans des petites îles, un petit peu partout, ou jusqu'en Sibérie, où il fait terriblement froid, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien, où les gens vont se manger entre eux. Il y a des histoires d'horreur qui sortent à chaque année en lien avec l'époque stalinienne et surtout les fameuses années 30, où vraiment, là, ces grandes purges-là sont assez spectaculaires. Non seulement ça baisse la démographie à un moment donné, mais plus personne n'ose rien faire ou rien dire devant Staline. Et c'est là où il porte un double chapeau, parce qu'il est dur envers sa population, mais il va être un allié inévitable pour, à un moment donné, Winston Churchill, Mackenzie King au Canada et pour les États-Unis, c'est que il va avoir une armée qui est quand même puissante, qui est l'armée rouge. Et on va devoir...
Ils peuvent pas gagner la guerre sans lui.
On a besoin de lui, effectivement. Et c'est là où, même si on n'est pas d'accord avec sa façon de faire et ce qu'il est, quand on se bat contre Hitler, ben là, si lui est prêt à nous aider, ben, on en a besoin. T'sais, bon, l'armée rouge est quand même celle qui libère Auschwitz, là, le 27 janvier 1945. Mais avant ça, ils ont subi un contre-coup parce que, bon, Staline, c'est aussi, au départ, il voit aller Hitler, puis il fait comme, un peu comme Mussolini de son côté ici, ils font comme, c'est qui ce cinglé là? Parce que des deux côtés, on le voit comme un fou. Hein? Mussolini, autre homme fort de l'Italie, mais qui a qui considère, du moins, qu'il a une forme d'intelligence, Staline, même chose, voit ce Hitler qui a des visées très grandes, et pour l'URSS, ben, c'est terrible. Hitler qui est vu un peu comme un cinglé, mais pour l'URSS, c'est vraiment dramatique, parce que là où est située l'Allemagne, quand Hitler va vouloir commencer à grandir son territoire, ben,
il s'approche. Va aller inévitablement vers l'URSS.
C'est la raison pour laquelle il y a un pacte de non-agression qui est signé au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939.
Hitler va pas respecter partout.
En 1941, allô! Je t'encule, j'arrive par en arrière et je te prends par surprise. Et Staline, quand il va recevoir... Les gens ne voulaient pas lui dire. Les gens avaient tellement peur de Staline que ça a pris une dizaine de jours avant qu'il soit officiellement averti que l'armée rouge était rentrée sur le territoire de l'URSS. Parce que les gens avaient peur de mourir en lui annonçant la nouvelle. Tu sais, je veux dire, c'est quand même surréaliste quand tu y penses, les gens.
10 jours! Mais 10 jours, c'est énorme! C'est pour ça qu'ils ont eu le temps d'aller aussi loin.
Oui, oui, oui! Puis c'est parce que le chef n'est pas prévenu. Le chef d'État n'est pas prévenu encore parce que tout le monde a peur de sa réaction. Alors, c'est sûr que ça nuit à l'armée rouge, mais Staline est un fin stratège militaire. Ils vont réussir quand même à remonter et à chasser finalement les Allemands. Et c'est comme ça qu'en 1941, ben là, l'armée rouge a changé de côté. En fait, l'URSS change ses allégeances, va envoyer promener Hitler et va commencer à tendre la main à un Winston Churchill du côté de l'Angleterre. Là, vraiment, on veut trouver une façon de mettre fin à Hitler. Là. C'est là où on va chercher des façons de s'allier pour pouvoir mettre un terme à tout ça. Staline devient un allié, surtout pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a besoin de son armée, on a besoin de ses position géographique, de ses connaissances aussi de ce qui se passe en Europe. Et l'armée rouge, ben, elle est une arme redoutable contre Hitler à un moment donné. Et effectivement, ce sont eux qui vont réussir à libérer Auschwitz. Là. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont prendre Berlin, qu'on va avoir Berlin-Est et Berlin-Ouest aussi par la suite. Mais c'est la raison pour laquelle ce qu'on vient de raconter, il est horrible, mais en même temps, on ne peut pas le démoniser à 100% parce que quand il a viré de bord, ben, il a quand même aidé à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et à libérer certains camps de concentration. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas lui personnellement, mais c'est son armée qui le fait, c'est l'armée rouge. C'est ce qui fait que souvent, en Occident, on essaie on le passe vite. On le connaît pas, mais volontairement, on veut pas trop montrer à quel point il était terrible, mais qu'on avait quand même pas le choix de s'associer à un monstre comme ça pour gagner la guerre. C'est là où c'est toujours un petit peu délicat. Dans l'histoire de géopolitique où, ben oui, Staline a été important. En même temps, on n'approuve pas nécessairement ce qu'il faisait sur son territoire, mais on va fermer un peu les yeux. On va aller plutôt mettre le blâme sur Hitler et les génocides juifs, mais on regarde pas le génocide.
C'était pas mieux de l'autre bord, là.
On a comme, on dirait, un peu voilé ce qui se passait sur le territoire de l'URSS parce qu'on avait besoin de lui pour gagner cette guerre-là. Fait que, tu sais, c'est un peu ce qui fait que Staline passe vite, souvent, dans les livres d'histoire, entre autres pour le secondaire ou même pour le collégial et tout ça. C'est qu'il est difficile à... On peut pas le... De toute façon, faut pas être juge, mais tu sais...
Ben, je pense que ses actes parlent pour lui-même.
Il y a tellement de monde qui meurt, tu sais, c'est ça. En même temps, il y en a qui vont dire, oui, mais pour tenir un régime communiste comme ça, la quantité de démographie qu'il y avait, il n'y avait pas le choix d'y aller de la manière forte. Tu sais, c'est ça, ce genre de personnages-là qui ont des idéaux révolutionnaires, c'est comme Ernesto Che Guevara, c'est comme Fidel Castro aussi du côté de Cuba. Il y a des gens qui vont justifier la violence pour réussir à mettre en place certains idéaux. C'est là où souvent on s'entend pas sur l'espèce de legs à laisser à un personnage historique. Donc, Staline, en fait, il y a un double leg. Il y a le leg du monstre, en fait, du dictateur avec un cul de la personnalité immense dont tout le monde a assez peur au point où on ne dit pas tout de suite que Hitler est sur son territoire. Et de l'autre côté, ben, une armée quand même bien organisée et quand il change de côté, ben, il va vraiment être un outil majeur pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, tu sais, c'est très délicat.
Mais en même temps, j'ai l'impression, puis je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai l'impression que c'est comme de l'égoïsme. Tu sais, dans le sens qu'il a changé de camp pour ses propres intérêts et non pas pour le bien du monde, là, tu sais. Puis on se rappelle que ce qu'il a fait avec Berlin-Est puis toute l'Allemagne de l'Est, c'était pas glorieux non plus.
Il y a rien de glorieux dans tout ça. Mais à l'époque, ça sert les Américains, ça sert tout le monde. Donc, il y a un contrôle. Et on a besoin de ce contrôle-là. Puis s'il est prêt à en assumer une partie, il y a une Europe à reconstruire de l'autre côté. L'Angleterre est dans un piteux état. C'est nécessaire. Mais tu sais, en même temps, au départ, il est donc allié des Américains. Qu'est-ce qui se passe par contre? C'est que les Américains vont dire « J'ai pas besoin de toi pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. J'ai une bombe atomique. » Puis les Japonais, je te veux pas, en fait, dans mes pattes quand je vais aller leur botter le derrière. Les Américains se sont débrouillés tout seuls avec le Japon, qui est donc la dernière étape de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, c'est une chose, mais il reste le Japon. Le Japon qui a attaqué Pearl Harbor, le Japon qui est l'ennemi numéro un des Américains. Les Américains leur balancent deux bombes atomiques et mettent fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où Staline est devenu comme « Ah oh, ben mime ». J'avais l'espèce d'aura, là, cette gloire d'être celui qui avait comme mis fin à une partie de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous l'avez achevé avec quelque chose que je n'ai pas, mais regardez-moi bien le développer, par exemple, qui est l'arme atomique. Et c'est le début de la guerre froide. Les germes de la guerre froide vont naître là, vont naître de cette espèce de un peu comme une guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. C'est une guerre d'égo, de qui a la plus grosse armée.
Je pensais à dire qui a le plus gros pénis.
Ben, qui encule le plus fort, peut-être. Parce que c'est un peu ça. Donc, c'est les germes de la guerre froide. Et donc, là, les relations entre les Américains et Staline et l'URSS vont s'effondrer. Et on va entrer dans un autre genre de guerre, surtout que les Américains vont vraiment vouloir mettre fin au communisme quand ils voient les ravages de tout ça. Là, ils sont anticommunistes à l'os, ça va être la guerre du Vietnam plus tard, ça va être plein de choses. C'est Cuba. Cuba qui s'allie, ouais, c'est beaucoup, qui s'allie après à l'URSS, parce qu'ils ont pas, à l'Union soviétique, ils n'ont pas le choix, en fait, parce que les Américains vont les envoyer valser. c'est fou là, ce qui s'amorce pour les années 60 du point de vue de la géopolitique, mais Staline ne sera plus là pour porter tout ça parce qu'il meurt de ce qu'on pense être un ACV à l'âge de 74 ans, en 1953. Mais reste que les germes de la guerre froide sont déjà là de par cette espèce de colère qu'il entretient à l'idée que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par les Américains sans l'aide de l'URSS. Donc, il n'a pas il ne termine pas avec tous les honneurs. Et ça va le déranger énormément.
Mais il n'y a pas Vladimir Poutine aussi qui avait fait une sortie il y a quelques années comme quoi il voulait qu'on reconnaisse le sacrifice de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale?
Ben oui! C'est sûr, mais il le fait souvent, en fait. Quand on commémore les morts ou les soldats, ben en fait, quand on parle du jour du souvenir pour la première, mais aussi donc la Deuxième Guerre mondiale, souvent on délaisse un petit peu la Russie dans tout ça. C'est un peu volontaire, tu sais, de pas trop glorifier la Russie encore aujourd'hui, on veut pas trop le faire, fait que c'est sûr que Poutine s'en sert pour dire « Hey, on a comme été important. » C'est vrai. Le pire, c'est qu'il n'a pas si tort que ça. Et l'armée rouge a été très importante, mais dans le contexte actuel, on ne veut jamais trop glorifier un Poutine qui empoisonne du monde avec du thé, là. Tu sais, je veux dire...
Poutine est comme l'heureux héritier de Staline, là, dans le sens qu'il est comme un peu dans la même lignée de poigne de fer, de dictature, de le culte de la personnalité, là.
Oui.
Poutine, il y a ça.
Modifier une constitution pour être élu tant qu'il le veut, tu sais. Oui, il est dans cette lignée-là. Un homme intelligent, quand même, pour y arriver aussi. Où, justement, les morts des opposants, ça ne le dérange pas du tout. C'est juste que là, ça se fait à une époque où, qu'on le veuille ou non, il y a plus de journalistes qui osent risquer leur vie pour mettre ça en évidence. Il y a plus de surveillance aussi, même si on n'a pas toutes les données. Mais oui, on pourrait le mettre dans une ligne comme descendant un peu d'un Staline ou même, bon, d'un Lénine réuni, là. Mais on est quand même à une époque qui est terriblement différente, par contre. Donc, sa façon de faire, elle est plus politique. Donc, il a fait modifier une constitution pour avoir le droit d'être élu autant qu'il veut. Tu sais, il va jouer plus là-dessus. Il a des élections. Il y a des élections oui, en Russie, mais vote pour lui! C'est ça! Mais, tu sais, je veux dire, c'est là où ils ont joué quand même. C'est un peu différent de l'époque de Staline, mais on joue encore avec cette ligne dure où les gens n'ont pas de liberté d'expression, où s'ils osent, ben, t'en meurs. Tu sais, c'est où on t'empoisonne avec du polonium, puis des choses comme ça. Tu sais, on fait des choses aussi terribles que ça.
Et là. Puis, donc, est-ce que c'est Staline qui est à l'origine? Là, je sais que peut-être qu'on rentre dans un tout autre sujet, là, mais est-ce que c'est lui qui est à l'origine de la construction du mur de Berlin?
Ben, oui et non. non, là, je veux dire, c'est parce que des fois, on va dire, c'est sous Staline que ça se passe, mais tu sais, je veux dire, honnêtement, il y avait d'autres chats à fouetter, puis souvent, ça va se passer plus au niveau, tu sais, de l'administration générale de l'armée, où on va dire, bon, on a besoin de faire ça, 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 puis il va dire, OK, ça marche. Mais c'est sûr que c'est sous Staline que commence la séparation, effectivement. C'est une façon d'aller chercher, de fixer, en fait, je te dirais, les frontières de l'URSS après la Deuxième Guerre mondiale aussi, là. Puis ça va créer plein de problèmes, inévitablement.
Et puis, quand Staline meurt, qu'est-ce qui se passe?
Ben là, c'est Khrouchtchev qui arrive au pouvoir, Nikita Khrouchtchev, qui réalise que, bon, les relations internationales sont importantes, même si c'est les germes de la guerre froide, il veut faire un petit peu attention. Il est peut-être un petit peu plus prudent pour l'instant. Et il réalise que pour le commerce, pour plein de choses, l'URSS, en fait, ça ne sera plus l'URSS, mais ce qui va devenir la Russie, va avoir besoin de partenaires internationaux. Et Khrouchtchev, d'ailleurs, va, je dirais, ramasser Staline. En fait, il va détruire une partie de son héritage en Russie en disant, ben, justement, la politique de peur en Russie, ça n'existe plus, là. Bon, il y a une forme de modernisation un petit peu de la politique qui va se faire. C'est sous Khrouchtchev qu'on va vouloir faire enquête sur la mort des Romanov, d'ailleurs, où là, on va trouver les documents d'archives, on va comprendre qu'ils ils ont été fusillés sous les ordres de Lénine. On ne savait rien de tout ça, là, avant les années 60, là, tu sais, je veux dire, ça a été toute une saga, retrouver les corps qui avaient été brûlés à la chaux pour pas qu'on puisse les identifier. Ça s'est fait sous Khrouchtchev, ça. C'est vraiment sous Khrouchtchev qu'on a essayé le plus possible de trouver des réponses, de donner des réponses au peuple russe sur cette partie peut-être un petit peu plus cachée de leur histoire. Mais ça n'empêche pas que le conflit idéologique avec les Américains est encore là et on va plutôt s'allier à l'ennemi numéro un des Américains qui est Fidel Castro. Là. Fait que tu sais, on joue dans un autre univers encore. qui serait très lourd.
Et Staline, il est où aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, il est comme dans un petit cimetière moins public, mais au départ, quand il est décédé, on l'avait envoyé sur la place rouge avec Lénine, le corps embaumé et tout, mais quand Khrouchtchev est arrivé au pouvoir, puis que voulu, on parle de déstaliniser, hein, c'est un peu ça quand même, la Russie, il s'est dit non, on peut pas glorifier Staline. Lénine, c'était quand même pas si pire.
Ben après ce qu'ils ont vécu, c'est sûr que tout avait l'air pas si pire.
Staline, ce culte de personnalité-là, on n'en voulait pas. T'sais, c'était une façon de dire que c'est vraiment la fin de l'ère stalinienne aussi. Donc, on a fait bouger là, le corps de Staline dans un cimetière pour pas qu'il y ait en fait de pèlerinage en ce qui le concerne et tout ça. Donc, en 61, là, son corps a été déplacé de la place rouge.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur Staline en terminant?
Je pense que c'était ça. Et sérieux, c'est tellement... C'est tellement triste en même temps. Il y a tellement de choses qui... Mais en fait, oui, je vous invite à, au lieu de juste faire une recherche sur Staline, aller lire sur les goulags, aller voir les images d'archives des goulags, parce que c'est là où vous allez voir l'ampleur de la tragédie du petit peuple qui, souvent, dans les grands livres d'histoire, est mentionné, mais passe quand même un peu en dessous. Mais c'est contrairement, c'est l'Antiquiste qui parle. Moi, j'ai pas des images comme ça pour l'Antiquité, mais là, il y a des images filmées, il y a des photographies de ces réalités-là. Ça a été documenté quand même un peu et c'est resté pendant longtemps dans les archives secrètes. Et là, c'est en train, lentement, mais sûrement, de sortir. Ça vaut la peine, même si c'est terriblement difficile à regarder, de voir cette réalité-là pour justement ne pas trop glorifier Staline non plus. Parce que sinon, comme je dis dans les livres d'histoire, on a tendance à dire, ben, grâce à l'aide de Staline et de l'armée rouge, blablabla, oui, mais il y a comme tout un moton d'horreur en dessous.
Ah ouais, hein? Ben moi, en terminant, tu vois, ça va vraiment dans la même lignée que toi. Je vais vous recommander un livre qui s'appelle « Prisonnière de l'île glacée Trofimovsk ». Voilà, alors j'espère que mon russe est bon. Sinon, je vais vous recommander aussi, si vous vous intéressez à l'histoire de la Russie, un super bon balado qui s'appelle « Rising Russia ». Mm-hmm. Donc, Rising Russia ou Russia Rising, là, je me souviens plus dans quel ordre.
Il semble que c'est Russia Rising. Je suis plus sûre, mais je pense que c'est l'autre. Mais c'est pas grave.
Ben, essayez un ou l'autre, là. Regarde, vous avez deux options. T'sais, vous pourrez trouver, mais qui s'intéresse encore une fois à toute l'histoire de la Russie. Et niveau divertissement, tu vois, moi, j'en ai plein d'affaires sur la Russie, mais la série télé The Americans, qui se passe pendant la guerre froide, pendant les années 80, où un couple d'espions se font passer pour des citoyens américains, donc ils ont leur petite vie tranquille, c'est des agents de voyage, la journée, ils ont l'air de monsieur, madame, tout le monde, et bam, la nuit, ben c'est des espions qui font de l'espionnage industriel et des trucs comme ça pour envoyer en Russie, qui doivent recruter et tout. Super intéressant, très romantique, mais ça montre un côté de la guerre froide que je trouve qu'on ne voit pas souvent.
Ah, c'est bon. Mais d'abord, je vais acheter un mini complément à tout ça. Si vous voulez voir des images d'archives quand même de qualité assez impressionnante sur l'époque de Staline, la série Apocalypse a fait quelque chose d'absolument exceptionnel.
Oui, qui s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale avec beaucoup, beaucoup d'images d'archives. Puis c'est pas très long aussi, je crois que c'est 4 épisodes.
Oui, puis c'est une quarantaine de minutes, ça fait très longtemps que j'ai vu ça, mais ça reste que c'était de qualité, ça l'est encore assurément en 2021, parce que ces archives-là, il y avait des choses qu'on n'avait jamais vues, nous, ici. Donc, des fois, pour avoir une immersion visuelle, encore une fois, là, dans cet univers-là, je pense que c'est ce qui s'est fait de mieux depuis longtemps.
Très bonne recommandation. Evelyne, merci beaucoup de nous avoir partagé ton savoir. Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!